nos camarades d'en haut d'intervenir aussi pendant 5 minutes pour lancer le débat sur le thème science et autogestion. En attendant, je vous lis la lettre donc de René Dumont. Sciences et autogestion. Alors je m'excuse, il va peut-être y avoir quelques petits très trébuchements parce que René Dumont a une écriture qui est assez difficile à lire. Le 19e siècle croyait que la science allait résoudre tous nos problèmes en réalisant des progrès illimités de production. Il suffisait alors de réaliser une répartition moins injuste des productions obtenues et l'on croyait, Marx croyait, l'abondance à la portée de la main. Il y avait alors 1 milliard d'hommes sur le globe. Il y en a 4 aujourd'hui, 6,5 milliards en 2000, 12 ou 14 en 2050. Et l'on sait que les ressources non renouvelables, entre parenthèses combustibles, minerais, ne sont pas inépuisables. L'abondance universelle du type de notre société de consommation répandue sur le globe, ce que se proposait, ce qu'on appelait le développement, n'est donc pas réalisable. Il nous faut déjà envisager une civilisation à plus basse croissance démographique, surtout chez les riches, les plus gaspilleurs, et une moindre croissance de la consommation d'énergie pour réduire ou éviter les périls du nucléaire. Ce qui permettrait d'atteindre la mise au point de la seule, soulignée seule, énergie de l'avenir, énergie solaire, ce qui va demander 10 ou 20 ans. Si nous donnons à la recherche en ce domaine tous les moyens comparables à ceux que l'on a donnés pour le nucléaire dans les 25 dernières années. Claude Guillot, de l'Académie des sciences, dit produire, avec des miroirs captant de l'énergie solaire, de la vapeur d'eau à 600 degrés, produisant de l'énergie au double du prix actuel. Donc les recherches permettront un jour des prix équivalents. Il s'agirait d'unités autour de 25 mégawatts ou moins. Cette petite unité a une grande valeur politique, parce qu'elle facilite la décentralisation énergétique, donc individuelle, donc l'autogestion. Au contraire, la centrale nucléaire de 1000-1300 mégawatts, c'est la société hiérarchisée et centralisée qui en découle logiquement. Les scientifiques ont et vont avoir de plus en plus une redoutable responsabilité politique, car l'orientation de leurs recherches facilitera l'élaboration de telle ou telle société, avec un grand S, de tel ou tel type de civilisation. À eux désormais de réfléchir à cette lourde responsabilité. Et au milieu de cette cause, de participer à leur prise de conscience. Il ne s'agit plus pour eux de mettre au premier plan leurs revendications matérielles personnelles, mais celles de l'orientation, des buts, des objectifs de leur recherche. René Dumont. Il nous fait son exposé à l'heure. Alors je signale qu'il n'y a qu'un micro parce qu'il y a des haut-parleurs dans les couloirs et qu'on est obligé d'employer tous les micros en même temps.
Il y a l'électricité, la science. Je pense que René Dumont vient d'aborder un aspect des problèmes de la science et d'autogestion. Personnellement, étant donné mon orientation professionnelle, la science n'est pas tellement la science du monde physique, qui débouche sur une technique et une exploitation du soleil, d'énergie, des sources d'énergie variées. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la biologie dans son ensemble, c'est-à-dire la science aussi du monde vivant.
J'interviens juste une minute pour dire qu'il y a deux voitures qui bloquent une maison et les gens ne peuvent plus sortir de chez eux, ce qui leur pose un certain nombre de problèmes, peut-être qu'ils veulent venir ici. C'est le numéro 648 CG94 et le numéro 736 KD34. Alors les camarades qui ont ces voitures-là sont obligés de les retirer aussi vite que possible. Merci.
Je touché le truc. Bon, là-dessus. Oui, la science. Mais ce qui m'intéresse, donc, c'est plus la science du vivant. Et je pense que c'est une notion qu'on a assez peu, en général. La science pratique, utilisée à Vincennes, un certain nombre de couches sociales jeunes, plus jeunes que moi, qui ont un certain mépris de la science, parce que pour eux, la science débouche sur la technique, et donc débouche sur le monde contemporain, dont ils ont ras-le-bol, suivant l'expression connue. Donc ils refusent la science en tant que science permettant à l'homme de transformer l'énergie et la matière inanimée pour faire des biens de consommation. Et à côté de cette science, ce que nous essayons de leur dire, c'est qu'il y a une science du monde vivant qui n'a pu s'établir effectivement qu'après que nous ayons avancé d'une façon très importante dans la science de la physique, dans la science du monde inanimé. Et cette science-là, je pense, c'est elle qui doit être fondamentale à connaître lorsqu'on veut s'occuper des sciences humaines. Les sciences humaines jusqu'ici, c'est-à-dire la sociologie, l'économie, la politique, la psychologie même, se sont basées essentiellement sur le langage et le langage conscient. Je me souviens qu'il y a un monsieur qui s'appelle Freud et qui disait que 95% de nos actes et de nos pensées résultaient du fonctionnement de notre inconscient. Et étant donné que par définition l'inconscient est inconscient, il était difficile de le croire. Il fallait donc, il a fallu que, au cours des 30 dernières années, la biologie, en particulier la biologie du système nerveux, débouche sur des connaissances qui lui permettent de comprendre comment un système nerveux fonctionne dans une situation sociale, c'est-à-dire au milieu de ses contemporains, pour que nous puissions découvrir un certain nombre de lois valables dans l'ensemble des règnes vivants, du règne vivant, et qui constituent finalement la moitié ignorée jusqu'ici de la science, ont été constatées le bien, parce que la physique nous a amené à dominer le monde matériel avec une ignorance totale de ce qui guidait nos comportements, en dehors du discours logique, qui avait toujours un alibi pour n'importe quelle guerre, n'importe quel génocide, n'importe quelle exploitation de l'homme par l'homme. Toujours bonne raison de le faire, étant donné que ces raisons étaient des raisons qui se passaient dans la biochimie complexe du système nerveux, c'est-à-dire dans notre inconscient. Or justement, depuis quelques années, nous commençons à mieux comprendre comment fonctionne cette inconscient, et je pense qu'il est important que ces notions soient généralisées, c'est pour ça que j'ai écrit des livres, et que je suis ici ce soir, parce que il y a deux choses dans l'action. Il y a évidemment l'hypothèse de travail, la connaissance des mécanismes, et puis il y a l'application dans la pratique, dans la praxis, de ces hypothèses de travail qui sont toujours des petites étapes à parcourir, parce qu'une société idéale, ça n'existe pas. Et à partir du moment où on l'imagine et on essaie de la réaliser, eh bien, on s'aperçoit que des faits nouveaux vont sortir, qui vont complètement transformer l'hypothèse de départ, donc vont nous obliger à transformer notre action. Et je pense que quand on parle d'autogestion, on a, chacun de nous, une idée d'autogestion. Et il pense que c'est effectivement ce qui devrait arriver dans une société idéale. Et en réalité, nous devons combiner nos connaissances, celles que vous avez de votre vie journalière, celles que j'ai de ma vie journalière aussi, et puis celles des connaissances qui jusqu'ici étaient occultées et qui commencent à prendre certaines extensions que parce qu'elles répondent à des besoins qui sont ceux que Dumont a décrits, c'est-à-dire que l'on s'aperçoit que tel que nous nous comportons, tel que l'espèce humaine, et certains groupes humains en particulier dans la biosphère se comportent, ça ne pourra pas durer éternellement. Et donc, c'est un, quand on parle d'un choix de civilisation, il n'y a pas de choix, je ne crois pas à la liberté, et je pense que c'est la seule façon, si on ne croit pas à la liberté, d'arriver à la tolérance. Mais je crois que ce n'est pas un choix, il y a une pression de nécessité où l'espèce survivra et elle changera son comportement dans chaque individu que nous sommes, où elle disparaîtra. Et donc, il ne s'agit pas de choix, il s'agit de, je ne sais même pas s'il est bien ou mal, je ne veux pas mettre de jugement de valeur, de savoir si il est bien ou mal que l'humanité survive. Étant faisant partie de cette humanité, je serais tenté de souhaiter qu'elle survive, mais en fait, je ne serais pas là pour savoir si elle survit. Et je pense que, en fait, c'est que nous avons une nécessité et une pression de nécessité. Et je dois dire que je cite souvent, je l'ai même encore cité cet après-midi, là-dessus je terminerai cette introduction, une phrase de Jacques Monod qui n'a pas écrite, je le regrette, parce qu'elle est, à mon avis, extrêmement, extrêmement importante. Jacques Monod disait un soir que, pour lui, le socialisme, c'était ayant pris conscience d'une pression de nécessité, bien de l'utiliser pour aller plus loin et s'en libérer. J'exprime ça autrement pour me faire comprendre. Tant qu'on n'a pas connu les lois de la gravitation, c'est-à-dire une pression de nécessité à laquelle tous les corps inanimés et animés sont soumis sur notre planète, tant qu'on n'a pas connu les lois de la gravitation, je ne parle même pas de la relativité, je parle des lois de la gravitation. Peut-être que si je lâche ces lunettes, elles vont tomber sur la table. Quand on ne pouvait pas voler, on ne pouvait pas aller sur la Lune. Maintenant qu'on connaît les lois de la gravitation, c'est pas qu'on s'en libère, c'est faux. On ne s'en libère pas, mais on l'utilise et on va sur la Lune. Je crois que la biologie peut apporter aux connaissances humaines un moyen de se libérer des dominances et des hiérarchies dont notre camarade de Air France nous parlait tout à l'heure. C'est tout ce que je veux dire au départ pour amorcer la discussion.
De ce qu'on peut appeler l'autodestruction.
Je peux parler même sans micro. C'est l'unique chose qui me reste. Le mot autogestion, je considère qu'il est actuellement comme le mot liberté, le mot démocratie, illégal vous dire. Je me rappelle que c'est quelques temps, j'avais lu dans un journal parisien qu'il a disparu, même un gaulliste parlait d'autogestion. Oui, c'est comme ça. Mais, de toute façon, j'estime qu'il n'est pas connu. C'est un mot dans la réalité. Moi, je ne sais pas si par chance ou par malheur, parce que c'était pendant la guerre civile en Espagne, j'ai vécu cette autogestion que nous autres, on ne disait pas autogestion à l'époque. Quand il s'agissait de distribution, c'était des coopératives. Et quand il s'agissait des autres aspects de l'activité du travail, on disait collectivité. Ou d'un autre aspect, socialisation. Avant de parler de les choses que j'ai vécu personnellement, d'un côté ça me gêne, parce qu'en même temps on parle de soi-même, mais je crois que le meilleur qu'il y a pour offrir à les autres, c'est la chose qu'on a vécue. Parce que ça, on ne l'a pas raconté. Ça, c'est nous qu'on la raconte parce qu'on l'a vécu. En même temps, je vous demande pardon, c'est la première chose que je devais faire. Par mon français, je m'exprime comme je peux, parce que je suis en France, c'est mon devoir. Sans un conducte, il y a eu des erreurs, il y a eu des échecs, il y a eu des succès. Mais dans la nation républicaine, on ne pouvait pas se permettre le luxe de que les échecs, ils restaient comme tels. Quand ça arrivait, dans n'importe quelle activité, les militants des syndicats de la branche qui avait arrivé ça, surtout ça arrivait beaucoup dans l'agriculture, on envoyait des équipes pour rectifier le tir, parce qu'on ne pouvait pas s'en passer. On avait besoin pour faire front à les besoins qui nous imposaient la guerre civile. Une des solutions qu'on avait trouvées, je vous parlerai tout de suite del cas de Jircu, c'était dans l'agriculture. Il baissait très bien la terre, il faisait très bien la récolection, il faisait tout très bien. Mais mon ami, quand il arrivait le moment de la paperasse, ces pauvres gens, ils ne savaient pas comment s'en sortir. Et nosaltres on a trouvé une solution. La solution, ça a été, on a créé l'école des secrétaires administratifs. Mais attention, il n'avait que cette fonction. Lui, il décidait rien. C'était les agriculteurs réunis dans une assemblée de chaque localité qui décidait ce qu'il fallait faire vis-à-vis de son métier. C'est-à-dire que c'est un petit aspect, parce que je vais vous parler tout de suite de ce chemin fait où j'ai été, pour que vous voyez que la préoccupation générale, ça ne s'échappait pas, ni dans les détails. Quant à la guerre civile qui a éclaté en Espagne, plutôt quand les militaires sont soulevés en Espagne, dans la zone qu'on a donné à dire républicaine, tout de suite, sans que personne ne le dise à personne, tous les travailleurs, de n'importe quelle activité, de n'importe quelle branche, tous ils sont pris en main son outil de travail. Dans mon cas, c'est le chemin fer. Pas mon cas personnel, dans notre cas. Je voulais vous dire dans la petite introduction qu'il faut tenir compte que pendant 3 ans, toute l'industrie de guerre qui fonctionnait en Espagne, même la lourde, c'était dans les mains des travailleurs. C'est qui administrait son affaire et celui qui priorisait ses produits. Il faut oublier ça. Bon, je retourne au chemin fer. Et on a fait la même chose. On a pris le chemin fer en main. À ce moment-là, dans ce chemin fer, comme de tout, un détail aussi que ça peut vous intéresser. En Espagne, au moment d'éclater la soulevation militaire, il y avait 99 compagnies de chemin de fer privées. Sans compter quelques-unes qui étaient de l'État. Vous pouvez vous imaginer quel pareil. Mais malgré ça, toute la réaction de toutes les petites, grandes et moyennes compagnies de chemin de fer, c'était la même. Prendre à main l'affaire de chemin de fer. Pour nous, que c'était le ferrocarril central d'Aragon, c'était le chemin de fer central d'Aragon, que sa tête de ligne il est à Valencia, on avait, pour si on n'avait pas assez de problèmes avec simplement notre chemin de fer, on avait à 150 km le front de Teruel. Il fallait transporter les fonds, il fallait transporter le matériel, il fallait transporter les munitions, il fallait transporter les vivres, les vêtements, etc. Mais qu'en même temps, nous autres, jusqu'à un limite qui permettait le front, on faisait service public de voyageurs et service public de marchandises, parce que la population, le peuple qui savait au longueur de la ligne, il fallait qu'il mange aussi. Et je peux vous assurer que tout a marché parfaitement. Tout. Il ne faut pas oublier que dans ce affaire, comme dans toutes les branches de métier, il y a des techniques, il y a des techniciens, il y a des cadres. Ce n'est pas seulement le simple garde-voix ou le simple qui tourne la huile qui ferait marcher le train, il fallait marcher entre lignes. Et je vous assure qu'on n'a pas eu besoin d'amnistie de temps, qu'on n'a pas eu besoin d'imposer aucune récrimination, qu'on n'a pas eu besoin de châtier personne. Et c'est pas seulement parce que nosotros on avait le syndicat national de chemin fer, que c'était de l'UGT, Union Générale de Travailleurs, et on avait la Fédération Nationale d'Industrie de Cheminots, qui appartenait à la CNT. Dans le Grand Hall de Valencia, on a réuni un certain nombre de personnes, et c'est là-bas qu'on a choisi les camarades d'une organisation et de l'autre pour former le comité de direction, en camarades de chaque organisation. Et c'était une assemblée générale parce qu'ils assistaient à un poste qui avait en main tout ce qu'il y avait à partir de chemin de fer, et était libéré. et chaque service réuni aussi à l'Assemblée générale, parce que ce n'était pas question de que l'Assemblée générale globale il désigne le représentant du comité d'administration, chacun pour l'importance des services, de voie et bâtiment, de traction, de l'usine, des ateliers, etc. Dans l'importance, il y avait un délégué ou des délégués au comité d'administration. Le comité de direction que vous dites, l'administration générale globale, l'avait été nommé, il faisait partie de ce comité d'administration. Et ce comité de direction, il avait par mission de faire accomplir les accords qu'il avait pris vis-à-vis de tous les services de chemin fer, tout, même l'administratif, qui avait accordé le comité d'administration. C'est pour ça que nosaltres on devait faire part, faire partie et être présent, parce que de cette façon-là, on était plus en possède de les problèmes qui s'avaient posés dans la réunion du comité d'administration et de les solutions qui s'avaient trouvées pour solutionner les problèmes posés. Je vais finir ici, même si vous trouvez qu'il est un peu pas coordonné, parce que j'ai perdu l'or, et je ne voudrais pas que vous croyez que je profite de l'opportunité pour commencer à dire des banalités. C'est-à-dire que si vous croyez que le transcours de notre réunion, qui ne peut vous être utile, vous apporter des éclaircissements ou des réponses à des questions que vous posez, si dans ma petite condition de travailleur, je peux vous répondre, je suis à votre disposition. Je
vais vous demander pourquoi on a une science et une science pour que l'on constate une unité de la science.
Je crois que je vais répondre à... Oui, je te répondrai très vite, il faut demander à la camarade qui a fait le stand pourquoi elle a mis un S.
Merci, hein. Je n'avais pas dit.
Effectivement, au départ, c'était prévu science sans S. Oui, fort.
Oui, d'abord, je ne crois pas que ce soit obligatoirement un jeu de questions de réponses et que les réponses ne soient qu'à la tribune. D'une part, je voudrais remettre en question un peu la science telle qu'on la voit dans l'Occident. C'est le produit d'une société et d'un certain système dans cette société. En dehors de ça, c'est une ethnoscience comme on a n'importe quelle société, c'est-à-dire une vue tout à fait subjective de l'environnement dans lequel on est et de l'histoire qu'on se donne à soi-même. Je doute fortement qu'on puisse continuer à s'appuyer sur le dogme de la science, spécialement quand ça aboutit à dire « si vous ne comprenez pas la relativité, vous n'irez pas sur la Lune, si vous la comprenez, vous irez sur la Lune ». J'en ai rien à foutre socialement d'aller sur la Lune. Bon, en ce qui concerne l'autogestion, j'ai peur qu'on se limite trop souvent à l'aspect autogestion sur la production, c'est-à-dire l'aspect économique. Moi, ça m'intéresse de toute manière, mais ça m'intéresse d'autant plus si ça mène à l'autogestion politique, c'est-à-dire sur les problèmes de confrontation à l'intérieur d'une société. Bon, et là, il y a quand même des problèmes qui se posent. J'ai l'impression que dans des sociétés complexes, comme celle dans laquelle nous sommes, il y a besoin de techniques, non pas de sciences, mais de techniques qui dépendent peut-être de cette science, mais qui peuvent être produites autrement par l'imagination des gens, par leurs compétences éventuelles. Bon, ces techniques sont par exemple la cybernétique, qui peut libérer les gens du travail par l'automation. Or, pour l'autogestion politique, il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps pour se concerter, pour s'informer, pour confronter les idées et prendre des décisions. Ça implique qu'on se libère sur le plan économique de la notion de travail, qu'on ne donne plus comme objectif social le travail, mais au contraire, se libérer du travail. Donc l'automation. Mais l'automation, à ce moment-là, ça fout en l'air l'autogestion sur le plan économique, puisque les gens, à ce moment-là, ne sont plus engagés dans le processus de production, ils doivent être engagés dans le processus de gestion sociale, de décision sociale. Mais ça a des implications pour lesquelles on est très loin du compte. Ça a des implications que les gens soient capables de le faire. Or, actuellement, très peu est fait pour qu'ils soient capables. Ça implique qu'ils soient capables sur le plan éducation. Or, l'éducation nationale, disons, ne s'oriente pas tellement vers l'autogestion. Ça implique, par exemple, qu'on ait des langages communs. Or, le problème de la société, c'est que les langages deviennent complètement contradictoire, qu'on joue sur l'anti-langage constamment, ce qu'on dit, ça veut peut-être dire l'inverse, à savoir, ça implique aussi un apprentissage de la relation. Et là aussi, on est très loin du compte. On s'en aperçoit quotidiennement. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend tout petit, qui s'apprend des bébés.
Je m'excuse de couper la parole à l'orateur. Il y a beaucoup de monde dans les couloirs qui n'entendent pas ce qu'on dit dans la salle.
Il faut bien crier plus fort.
On ne peut pas pousser les murs. Alors, je pense qu'effectivement, le problème soulevé est très intéressant. Et que tu continues à parler, le problème c'est quand même d'essayer d'être relativement bref, tout simplement.
Mais j'attendrai pas plus si je suis bref.
Pour des raisons matérielles, et si les questions sont relativement brèves, et je le souhaite pas personnellement, mais c'est un fait, eh bien elles pourraient être reformulées au micro et tout le monde entend aux alentours.
Il ne s'agit pas d'une question dans ce cas-là, j'ai rarement des questions à poser. Bon, en ce qui concerne l'information, effectivement, je considère que les tribunes sont quelque chose de relativement nocif. L'autogestion, c'est qu'il n'y ait plus de tribunes.
Tout à fait d'accord.
On est loin du compte. Bon, là aussi. En ce qui concerne, pour que l'autogestion soit possible, il y a aussi besoin d'information. Cette information, c'est aussi un problème dans la société actuelle. On est loin du compte et on ne peut pas dire que la compréhension qu'on a de notre environnement réel soit cohérent. Ça passe par des médias qui sont contrôlés et c'est complètement débile. Ça implique aussi qu'on ait, disons, une capacité d'imagination, que l'information qu'on reçoit aboutisse à l'imagination, à la capacité de créer, à la capacité d'améliorer les processus de fonctionnement de la société. Là aussi, on est très loin du compte. Je crois que tout ça, ça a des implications individuel, enfin, il y a un besoin, en plus il y a un besoin d'équipement pour que l'autogestion soit possible. Pour que les gens aient des relations, ça implique qu'ils aient des lieux pour se rencontrer, des lieux pour se confronter, des lieux pour décider ensemble. Or si on regarde autour de nous l'urbanisme qu'on nous impose, dans un immeuble, il y a rarement un lieu de réunion. On reste dans la société du 19e siècle, le seul lieu de réunion finalement c'est le bistrot, avec ce que ça implique sur le plan aliénation, etc. Bon, sur le plan des relations individuelles, on est bloqué au cercle restreint ou aux institutions, qu'elles soient politiques, sociales, ce qu'on voudra, on est piégé sous une étiquette. Et personnellement, je suis allergique aux étiquettes, j'estime que je n'ai pas besoin d'intermédiaires pour vivre avec mes contemporains. Ce qui concerne la pratique de l'autogestion actuelle, il y a déjà des choses qui sont possibles. L'autogestion sur le plan économique, au niveau des entreprises, est probablement ce qu'il y a de plus difficile, parce que tout le contexte s'y oppose. Mais dans la reprise en main de la responsabilité dans la vie quotidienne, il y a des choses qui peuvent exister réellement et qui déjà existent. Personnellement, enfin, je me suis impliqué dans certains aspects, par exemple, les histoires au niveau de l'autogestion de l'habitat, les histoires de communauté, les histoires de gestion collective d'immeubles, en ce qui concerne l'éducation, des réseaux d'éducation, en ce qui concerne la production, des réseaux artisanaux ou des réseaux de distribution. Enfin, il y a des quantités d'autres choses qui sont possibles. Je crois que l'autogestion ne doit pas être un objectif de lutte sociale qui remplace les lendemains qui chantent. J'ai peur que des partis politiques s'en servent comme drapeau, mais que ça ne change absolument rien au niveau de leur comportement personnel, individuel, quotidien. Et là, je crois que c'est dommage, parce qu'il y a en réalité beaucoup plus qu'on peut faire sur ce plan-là qu'on ne le croit généralement, mais ça implique que quotidiennement, on remette en question son propre comportement et qu'on essaye de reprendre du poil de la bête dans toutes les fonctions sociales qu'on peut vivre quotidiennement.
Effectivement, très bien, je pense, la science, l'aspect politique de l'autogestion, donc je vais passer la parole à Henri Laborie, ensuite à Edmond Maire.
Je suis d'accord, moi, surtout avec tout ce qui vient d'être dit. Je reprochais peut-être un peu le fait que il n'y a pas de ligne directrice là-dedans. Moi, je n'ai pas du tout l'intention d'aller sur la Lune. J'ai apprécié l'agressivité de l'orateur. J'ai proposé cet exemple pour montrer que, avec la connaissance d'un mécanisme, on pouvait aller plus loin et en faire autre chose, simplement. Maintenant, je suis d'accord que je n'ai rien à foutre d'aller sur la Lune, moi non plus. Par contre, tout ce que vous avez dit, je crois l'avoir écrit aussi, donc nous sommes d'accord. Il y a des techniques, bien sûr, mais il y a des techniques qu'on n'a jamais envisagées en dehors du langage, que vous maniez remarquablement bien d'ailleurs, et c'est celle des communications interindividuelles. Et ces communications interindividuelles, si on en reste au blablabla, ben, on n'arrivera jamais à les poser sur des bases solides, parce que ce que j'appelle la science, c'est une chose qui repose sur des bases expérimentales qu'on produit plusieurs fois et qui permettent de s'assurer l'action. C'est tout ce que je veux dire. Alors, que vous ayez insisté, par exemple, sur le lieu de réunion, je dirais que ce qui importe autant, au moins que le lieu, c'est le temps. On peut avoir des plus beaux lieux de réunion si on n'a pas le temps de se réunir, et ça aussi, c'est une question qui se pose. Mais alors, je voudrais quand même essayer, c'est très difficile, je voudrais essayer qu'on revienne à des plans, qu'on organise un débat et que, justement, les langages, vous l'avez dit aussi, les langages sont différents, donc il faudrait déjà harmoniser les langages, savoir que quand on prononce un mot, il y a le même sens et le même contexte pour tout le monde. C'est évidemment très difficile. Alors, je ne peux être que d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit par des points séparés. Ce que je voudrais, c'est arriver à réunir ces choses-là d'une façon cohérente dans un ensemble qui soit efficace sur le plan de l'action. Vous avez critiqué un certain type de société, je pense que nous sommes tous d'accord. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin actuellement et essayer de comprendre pourquoi ça en est ainsi et comment il faut faire pour s'en débarrasser.
Camarade qui est intervenu a soulevé pas mal de questions. Je ne dirais pas comme Henri Laborie que je suis parfaitement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Chacun écoute d'une façon un peu différente, et j'aurais plutôt l'habitude de prendre un peu le contre-pied, même si en déformant un peu les choses, mais pour mieux s'expliquer. En fait, il a démarré en disant « il faut remettre en cause la science ». Alors, à la fois oui et non. Il faut remettre en cause l'utilisation faite de la science aujourd'hui, et même la façon dont elle se développe, et surtout la façon dont elle se développe, parce que c'est la logique du profit, de la recherche orientée vers la croissance d'accumulation de biens matériels, qui est le domaine central de la science et qui fait que, bon, la recherche biologique ou médicale a bien sûr quelques brillantes individualités, mais absolument pas les moyens de masse, ni même l'orientation prioritaire qu'on doit lui accorder. D'autre part, il faut remettre en cause, alors là c'est la CFDT qui parle aussi nettement, une certaine interprétation de ce qu'on appelle le socialisme scientifique. Car finalement, tel que le disent le courant majoritaire du marxisme, le socialisme c'est affaire de science. Et à partir de là, pour Lénine, la science n'est pas donnée à chaque ouvrier. C'est les intellectuels qui, de l'extérieur, doivent apporter à la classe ouvrière la science de la révolution. Et la notion même d'avant-garde est basée sur cette notion de socialisme scientifique. Donc l'avant-garde possède cette science, ou tente de la posséder, et à partir de là conduit. Fait participer, cet affreux mot, fait participer, c'est-à-dire tente d'intégrer à sa propre démarche, de faire coller à ses propres décisions la masse des gens, mais ne tend pas à remettre la décision elle-même entre les mains de la population, puisque il y a là le précepte dès le départ que les scientifiques en socialisme, en marxisme dans ce cas précis, s'arroge le pouvoir de faire la révolution. Je dirais donc qu'il faut remettre la science en ordre et l'utilisation aussi de la démarche scientifique. Pour ma part, l'autogestion n'est possible que par l'application d'une démarche scientifique, c'est-à-dire une démarche expérimentale qui cherche à tout moment à intégrer les faits, les éléments nouveaux, les nouvelles connaissances, et on ne peut les intégrer que si l'on n'a pas un a priori dogmatique. Si l'on part d'une certitude, de certitude sur l'explication de l'histoire, et surtout une certitude simpliste, comme c'est souvent en schématisant à l'excès la lutte de classe moteur du monde, certes, mais la lutte nationale, par exemple, combien voit-on, combien ça peut bouleverser les choses. Et puis au-delà même, la démarche expérimentale, c'est de ne pas hésiter à critiquer les ancêtres les plus sacrés, justement à partir de l'expérience. Et de ce point de vue, il me semble qu'il faut dire maintenant, ça peut nous faire avancer peut-être sur l'autogestion, parce que ça correspondait aussi à un autre ami de notre camarade, l'autogestion, effectivement, c'est bien d'abord la politique. Le marxisme, Marx, a décrit avec beaucoup de détails et de précision une démarche qu'il a voulu scientifique, même si ensuite d'autres ont répété au lieu de continuer la recherche critique scientifique, a voulu donc une démarche scientifique de prise du pouvoir. Mais il ne s'est jamais, il n'a pas eu le temps, enfin il n'a pas pu à son époque, c'était pas la priorité, il ne s'est jamais penché sur l'exercice du pouvoir. Et c'est là un trou énorme dans toute l'expérience humaine. Tout pouvoir, aujourd'hui, à travers le monde et depuis le début des siècles, a toujours été un pouvoir monopolisé, accaparé, que ce soit au nom des dieux, puis d'un dieu, puis du roi, puis du capital, et en même temps de la science, ou des scientifiques. Au total, la question du pouvoir, de son fonctionnement, des raisons pour lesquelles la démocratie directe, quand elles exercent en petits groupes, la démocratie des conseils, les raisons pour lesquelles les conseils de 1917 en Russie, 1919 en Italie ou en Allemagne, de 1936 en Espagne, pourquoi ces conseils ont finalement été détournés de leur sens, pris en main par des avant-gardes politiques dans certains cas, ou au contraire ont conduit à la confusion. Les raisons profondes reposent sur une des choses que peut nous apporter bien l'écologiste, et notamment Henri Laborie, l'étude des comportements, la science du comportement. Et finalement, comment se définit le socialisme? Pour nous, à la CFDT, ce n'est pas la propriété sociale des moyens de production, le socialisme n'est jamais qu'un moyen. Le socialisme, c'est un certain type de rapports sociaux, égalitaires, désaliénés, avec un pouvoir égal entre les gens et partagé. Bien. Mais pour arriver à cette société, quand on voit comment on fonctionne, bien sûr une tribune comme ici, et toute la société dans laquelle on est, avec ces déformations graves de son fonctionnement, nous ne pourrons avancer que par une expérimentation réelle, critique, à tout moment. C'est en sens que, et avec du temps aussi, ça c'est vrai, c'est en sens donc, et j'en terminerai là pour ne pas être trop long, que la science me semble une donnée indispensable à la réalisation de l'autogestion, que justement parce que nous pensons qu'il faut que l'autogestion repose sur une démarche scientifique, l'autogestion n'est pas une utopie. C'est probablement la perspective la plus réaliste que nous ayons dans la période présente. Encore faut-il pour cela, sans aucun a priori, s'enrichir, écouter, et j'espère que Henri Laborie aura l'occasion, dans le cours de cette soirée, de nous dire un peu, même si on pourra aussi critiquer par moments les limites de sa démarche, de nous dire un peu en quoi les théories de l'information, la communication, cette théorie d'un tissu démocratique, de relations entre les gens qui commencent à s'ébaucher, en quoi ces théories peuvent apporter une perspective véritablement anti-hiérarchique, pas seulement dans les mots, pas seulement parce qu'elle est plus fort, ou parce qu'on a à un moment donné un rapport de force, mais une théorie qui, transcrite dans la pratique, peut permettre de garantir la durée d'une société anti-hiérarchique.
Je voudrais poser deux questions à Henri Laborie. La première, c'est parmi vos élèves de Vincennes. La première, c'est parmi vos élèves de Vincennes, vos étudiants,
Mais
pardon ?
Pourquoi mais ?
Les étudiants auxquels vous vous adressez, vous avez la chance de pouvoir vous adresser à Vincennes.
Très exactement.
Non, mais nous nous connaissons depuis le congrès d'angéologie. Mais je voudrais savoir si vous avez pu constater, du fait de votre type d'enseignement, que vous les avez rendus un peu plus imaginants. Et deuxième question liée à la première, c'est parmi les chercheurs de... que vous dirigez, de votre labo de recherche à l'hôpital, qu'on a cité tout à l'heure.
Que je dis.
Que vous...
Avec lesquels je travaille.
Avec lesquels vous travaillez.
C'est vrai, il y en a un là et que vous le dites.
Est-ce que parmi eux, il y en a qui sont venus de Vincennes, et comment les avez-vous recrutés? Qu'est-ce qui vous guide dans le choix d'un collaborateur chercheur?
Ça, je réponds tout de suite, si vous voulez, parce que ça, c'est vraiment des points de détail. Ça ne guide pas mon choix, c'est lui qui me choisit, c'est différent. Hein, celui qui est là en particulier, ne serait-ce que lui, mais les autres aussi.
Alors, comment hein?
Vous donnez mon témoignage?
Bah oui, vas-y.
Vas-y, oui.
Ça
sera
plus crédible.
Bon, alors,
allez-y.
Ah non, non, non,
moi, je crois. Je voulais brièvement comment je suis rentré chez Henri Laborie.
Je m'excuse, monsieur Henri.
Mais non,
ce n'était pas une question perverse, hein.
Il va se faire 33%, il est pervers.
Il se trouve que lorsque je commençais mes études dans une école, dite une grande école, bon, c'est l'école normale supérieure de Cachan. J'étais à l'époque obligé de faire un stage dans un laboratoire. Alors, je répète la question, il y a une personne dans la salle qui a demandé comment est-ce qu'Henri Laborie recrutait ses chercheurs. Alors, étant un de ses collaborateurs, je me suis proposé de répondre directement à la question. Alors, je disais donc qu'ayant un stage à faire dans un laboratoire de recherche, ayant eu l'occasion de rencontrer Henri Laborie, non pas directement, mais par ses émissions à la télé, par ses livres, je suis allé le voir un jour en lui demandant s'il acceptait de me prendre pendant un mois pour un stage. Et ce qui s'est passé, alors il s'est trouvé que conjointement à cette période, j'ai eu des problèmes personnels avec la hiérarchie de l'école, parce que je n'étais pas tout à fait dans la ligne droite de l'école normale supérieure, et que ces conflits sont allés en s'augmentant, et que j'ai donné ma démission de l'école. Et à l'époque, Henri Laborie m'a dit que j'avais fait une connerie, en me disant que lorsqu'on avait la chance d'avoir intégré une école comme ça, ne serait-ce que par rapport au fait, une fois qu'on est dans la structure, c'est dommage de s'en sortir. Il m'a proposé de reprendre ma démission, et en m'incitant lourdement, à poursuivre mes études jusqu'à la fin. Bon, ce que j'ai fait, et je dois dire qu'il a eu parfaitement raison de faire, parce qu'effectivement, si maintenant j'ai la chance de pouvoir travailler avec lui, d'avoir acquis la technicité suffisante, bon, on parle de compétence, employons le mot, la compétence nécessaire pour pouvoir faire de la recherche, c'est vrai que c'est essentiellement lié au fait d'avoir pu acquérir les connaissances suffisantes pour le faire. Donc, pour revenir au problème de départ, qui était le recrutement, c'était simplement... une adhésion de ma part à un mode de travail qui est tout à fait personnel à Henri Laborie. Bon, son laboratoire, encore une fois, notre laboratoire, est un laboratoire qui est tout à fait indépendant des structures officielles. On se démerde comme on peut pour avoir du fric, et en ce moment, c'est pas la joie. On essaye d'avoir des démarches qui sont beaucoup plus intuitives que rationalistes, ce qui nous pose aussi des problèmes avec nos collègues, entre guillemets, chercheurs, parce que les démarches qu'on a, c'est vrai, ne sont pas toujours acceptées dans ce domaine aussi abstrait et aussi fermé que celui de la recherche scientifique. Bon, enfin, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en gros, je crois que...
Je voudrais revenir un petit peu au ras des pâquerettes, parce que il me semble qu'on parle de la science avec un grand S, et puis des chercheurs scientifiques, sans bien parler de ce qu'ils font. Et puis Edmond Maire parle de l'espoir que nous avons dans la connaissance des comportements, qu'il très, je le pense aussi, importante dans les progrès des relations dont parlait l'intervenant tout à l'heure. Mais alors, ce qu'on constate actuellement avec les sciences humaines, c'est que ça va pas du tout dans le sens de l'autogestion, au contraire. Hein, je prends quelques exemples de sciences humaines. Hein, par exemple, certaines de tes découvertes, laborites, qu'on te reproche, on a reçu beaucoup de courriers à la gueule ouverte à ce sujet, qui sont les tranquillisants, hein, qui sont, alors là, vraiment le contraire d'autogestion. Ça peut être une arme formidable pour empêcher les gens de se révolter, pour les empêcher de penser. Ça leur donne pas de la force pour aller au-delà de ce qu'ils sont, au-delà de leur fonction et de leur position dans la société. Je sais pas, un autre exemple, par exemple la psychologie, quel usage est fait de la psychologie, par exemple à l'école. C'est aller les tests psychologiques, les tests d'orientation permettent dès la maternelle de classer les enfants, de les qualifier des tout petits, de faire des classes homogènes d'enfants qu'on dira normalement doués et qui eux seront les excellents représentants de la société technocratique de demain. Je sais pas, un autre exemple, la sociologie par exemple, qui permet par les tests d'effectuer des sondages, etc., qui permettent de manipuler davantage les foules. Tout ça, c'est très loin de l'autogestion, c'est même l'opposé. Alors bon, si on est là ce soir, c'est quand même qu'il y a un espoir. Ça serait peut-être intéressant de parler, de dire dans quel sens les sciences humaines, les connaissances du comportement peuvent aller vers l'autogestion. Et alors surtout, moi ce que je voudrais savoir, c'est si ça peut l'être en dehors de la théorie, en dehors de tes livres, en dehors des discours d'Edmond Maire, à quel niveau de la société, chez qui, pour moi, pour les gens qui sont là, à quel niveau ça se passerait, ça?
Bon, mais alors là, c'est très important, je crois qu'on est vraiment dans le débat. D'abord, ce que je voudrais dire à Edmond Maire et à toi, c'est que j'ai parlé des comportements tout à l'heure,